France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City Sandinghausen.
Halia Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour en Ukraine ce soir.
Ma femme est enceinte. Elle attend un enfant. Nous n'arriverons sans doute pas à avoir la paix, mais je crois que nos enfants, eux, y parviendront. J'essaie de rester positif. C'est ce qui donne de l'énergie. Pour ma part, je me battrai tant que ce sera nécessaire.
Bonsoir Maureen Mercier.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Maureen, vous êtes notre correspondante en Ukraine. Vous y êtes depuis le début de la guerre et c'est vous qui avez recueilli le témoignage de ce soldat qu'on vient d'entendre. La paix, dit-il, c'est pas pour notre génération, peut-être la suivante. Alors que Volodymyr Zelensky est à Paris, qu'Emmanuel Macron a reçu une coalition de 31 pays aujourd'hui, que mille choses ont changé depuis l'attitude des Américains ces dernières semaines, est-ce que le mot « au moins cessez le feu », Maureen, est dans le vocabulaire des Ukrainiens ou pas du tout ?
Pas vraiment, ou dans le domaine du rêve, j'ai envie de dire les choses ainsi. Je crois qu'on oublie un peu trop souvent en Europe que cette invasion, elle n'a pas commencé il y a 3 ans, elle a commencé en 2014, avec l'annexion de la Crimée, avec les débuts de l'invasion russe dans l'Est de l'Ukraine, dans le Donbass. C'était il y a plus de 10 ans. Cette guerre, elle dure. Ici, tout le monde vous le rappelle. Et malgré tous les efforts diplomatiques, il n'y a pas eu un cessez-le-feu qui est tenu plus de quelques heures ces 11 dernières années. Donc ici, les Ukrainiens n'osent même pas l'imaginer, ils en rêvent hein, plus que n'importe qui, mais ils savent combien ça va être compliqué à mettre en place.
Vous me disiez en préparant cette émission, Maureen, que pour les Ukrainiens, plus on parle de négociations, plus on sent la paix s'éloigner. Pourquoi ?
Alors, en début d'année, franchement, il y avait un espoir. Mais ce revirement des États-Unis, ça a été un coup dans la nuque. Vraiment un coup de massue. Pourquoi ? Parce que Trump reprend la rhétorique du pouvoir russe. Il se rapproche de la Russie. C'est vraiment un scénario au-delà de catastrophique pour l'Ukraine. Ce renversement-là, très franchement, ici, je crois qu'on ne s'y attendait pas. Et puis, pour faire simple... Personne ne pense que la Russie va réellement, et sur le long terme, arrêter d'envahir le pays, sauf si elle est sous pression, et sauf si elle est sous pression américaine. Et rien de tout cela n'apparaît plus à l'horizon.
Mais le revirement des États-Unis, Maureen, est-ce qu'il a créé vraiment une panique ? Donc, en gros, on est foutu. Ou paradoxalement aussi, peut-être, une forme de soulagement, parce qu'il fallait bien qu'on commence à parler de quelque chose qui ressemble à un cessez-le-feu, quel que soit le terme qu'on utilise d'ailleurs.
Alors, ça a été un coup très, très, très dur. Mais ce que vous disent les Ukrainiens, c'est que maintenant, on y voit clair. Ça fait 3 ans qu'on entend des déclarations. L'Europe promettre, les États-Unis aussi, des aides qui arrivent, mais jamais à la hauteur des déclarations. Et cette aide-là, elle n'est pas suffisante. Je pense qu'il faut aussi avoir en tête que depuis l'automne 2022, l'armée ukrainienne n'arrive pas à retenir ou peine à retenir l'armée russe. L'armée russe avance, l'armée ukrainienne n'arrive pas plus à récupérer ces terres. Il y a eu ces opérations sur les terres russes, dans la région de Koursk, mais rien d'autre sinon. Donc, ce que vous disent les Ukrainiens, là, c'est terrible, on est seul, mais au moins, dorénavant, on le sait. On peut faire un choix, soit on accepte une négociation qui va ressembler à une capitulation, soit on décide de continuer à se battre, et même sans armes, s'il le faut. Voilà, la situation est claire, désormais.
Alors, en même temps, ça fait longtemps que vous nous décrivez une population qui est fatiguée, des soldats qui sont au bout du rouleau. Vous avez décrit combien de fois des hommes qui ont à peine eu un jour, 2 jours, 3 jours de permission ces 3 dernières années. Donc courageux, mais épuisés. Ce que vous décrivez aujourd'hui, c'est même au-delà, c'est un monde en mode survie. Puisque, est-ce qu'au fond, on est dans le point le plus bas depuis le début de la guerre ? Est-ce que vous vous dites ça ou pas tout à fait ?
Moi, j'ai l'impression, oui, que depuis ces 3 dernières années, c'est la première fois que je vois l'Ukraine à ce point-là acculée. J'ai en tête ces jeunes femmes que je vois évoluer depuis 3 ans, résister aux bombes. Elles me disent aujourd'hui, ça y est, je comprends que je vais devoir me réfugier ailleurs, au Canada, aux États-Unis, en Europe. Je comprends que j'ai plus d'avenir dans mon pays. Je comprends que cette guerre va durer encore vraisemblablement des années et des années. Je vois aussi ces mères qui voient leur gosse de 17 ans et qui pensent à la mobilisation, qui bat son plein, qui se disent « Ah non, j'ai pas envie que mon enfant meure dans les tranchées. J'ai déjà assez perdu de monde jusque-là. » Donc, j'ai l'impression que oui, on ouvre un nouveau chapitre, que là, les Ukrainiens se disent « Non seulement ça va durer, mais c'est sans doute le chapitre le plus doux douloureux qu'on aura vécu depuis des années.
Après, l'Ukraine sait bien qu'elle ne reverra pas le Donbass dans ses frontières et encore moins la Crimée, mais est-ce qu'elle le dit aujourd'hui en fait ? Est-ce que vous rencontrez des gens qui le disent haut et fort ? Est-ce que l'abandon de ces territoires est quelque chose que l'on ne murmure pas mais qu'on dit tout haut ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'un tabou est tombé en fait ?
Ah oui, c'était effectivement un tabou au début de la guerre, mais je dois dire que moi, très vite, les Ukrainiens me l'ont dit, parfois même des gens qui vivent dans le Donbass, ils m'ont dit, bah, si les Russes volent nos terres, mais prenez-les, mais par contre, il nous faut vivre dans une Ukraine peut-être réduite, mais une Ukraine en paix et sûre. La Crimée, ça aussi, je l'entends depuis très longtemps, personne ne se fait d'illusions. S'il fallait récupérer la Crimée, ce serait des centaines de milliers de morts pour y parvenir. Et puis la Crimée s'est russifiée. Donc c'était un tabou, mais depuis longtemps, les gens sont, je pense, prêts, parce qu'ils sont lucides, à devoir être obligés, au moins temporairement, à perdre ces terres, mais ils ont vraiment besoin, par contre, d'une protection, d'être persuadés que la Russie ne continuera pas à avancer si il y a des négociations qui aboutissent.
Alors, et c'est ce qu'on les entend dire aussi, il y a cette femme que vous avez rencontrée, Maureen, qui nous le confirme, elle s'appelle Tatiana, elle est de Kherson, mais elle est partie pour échapper au bombardement, désormais elle fait des allers-retours avec Odessa, elle est prof à la fac, Tatiana, et voici ce qu'elle nous dit à nous, les Européens.
Vous les Européens, s'il vous plaît, réveillez-vous et aidez l'Ukraine, parce que sans votre aide, on risque de tous mourir. Je vous comprends, les Européens, parce que nous, ici, moi la première, il m'a fallu l'invasion à grande échelle en 2022 pour que je comprenne. Lorsque la guerre n'était que dans le Donbass, nous, on vivait. On pensait que ça ne nous concernait pas. Pour nous, cette guerre, elle était lointaine. Et puis, elle est arrivée chez moi. L'Europe devrait vraiment se réveiller, se rendre compte que la liberté, la démocratie, ce ne sont pas que des mots. Oui, j'aimerais que l'Europe ne fasse pas comme moi. J'aimerais qu'elle se rende compte à temps, pour que la tragédie n'atteigne pas vos nations.
Et en même temps, quand on entend cette femme, Maureen Mercier, j'allais dire à la faveur du revirement de Trump, parce que vous ne croyez pas que, et d'ailleurs on l'a vu cet après-midi avec la dernière conférence de presse d'Emmanuel Macron, la réunion à 31, etc. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, est-ce que les Ukrainiens n'ont pas le sentiment que ça y est, nous, ça pour le coup, on l'a compris ?
Très franchement, non. Mais je dois dire que même pour moi, c'est compliqué à comprendre, parce que je suis une Européenne purjus. J'ai envie de penser que tout cela peut s'arrêter, alors que j'ai vu le début de cette guerre. Je l'ai couvert, ce début de guerre à Donetsk en 2014. Ça fait 3 ans que je suis sur place, que je me rends sur les lignes de front. Mais je crois qu'on est, tant que la guerre n'est pas à nos portes, nous tombe pas dessus. Je crois qu'on a cette forme de déni, c'est une forme de protection tout à fait naturelle. Je crois que l'Europe est là-dedans. Parce que si l'Europe l'avait vraiment compris, ce danger, je crois qu'aujourd'hui, ce sommet n'aurait pas accouché d'une souris, si j'ose dire les choses ainsi.
Volodymyr Zelensky, on y reviendra tout à l'heure, dis-lui qu'il a besoin de beaucoup de points de clarification qui lui manquent. Lui, justement, on a bien senti depuis la fameuse engueulade du 28 février dans le bureau ovale qu'il accepte d'avaler des couleuvres, puisque c'est lui qui retourne chez les Américains et c'est lui qui va même aux négociations. Qu'est-ce qu'ils en pensent, ça, les Ukrainiens, Maureen Mercier ?
Qu'il fait bien, tout simplement, parce que l'Ukraine n'a pas le choix, parce que dans le meilleur des cas, l'Europe se réveille, mettons, crée une défense commune, produit en masse des armes, les livre à l'Ukraine, il faudra des années et des années et des années pour mettre tout ça en place. Donc ici, je pense que tout le monde part du principe que sans les États-Unis, l'Ukraine ne pourra pas s'en sortir sur le long terme. Donc il valide, absolument.
Mais qu'on pourra les convaincre de retourner, j'allais dire, du bon côté, les Américains ou pas ?
Je vais vous citer les Ukrainiens, ils me disent si on nous ôte l'espoir, qu'est-ce qu'il nous reste ? C'est comme ça qu'ils vous répondent, je crois.
Et est-ce que, justement, vous avez le sentiment que Zelensky a bénéficié d'un regain de popularité dans cette séquence-là ? Vraiment, la séquence qui vient de s'écouler depuis la fin du mois de février, est-ce que l'Ukraine peut-être même se fédère à nouveau, un peu comme elle l'était d'ailleurs au tout début de la guerre, un peu comme si on se tenait les coudes avant l'impact, en quelque sorte ?
Alors oui, alors sur la personne de Zelensky, je pense que c'est pas Zelensky qui gagne en popularité, c'est plutôt sa fonction, sa fonction de président. En fait, ce que les Ukrainiens disent aux Russes et aux Américains désormais, c'est bah, c'est notre président légitimement élu. Vous ne pouvez pas décréter que vous avez envie de vous en débarrasser. Mais il n'y a jamais eu ici de Zelensky mania, si j'ose dire les choses comme ça, tout simplement parce que ici historiquement on se méfie du pouvoir. Vous le savez, c'est un pays qui souffre énormément de corruption. Vous parlez aux soldats, il y en a beaucoup qui vous diront beaucoup de mal de Zelensky, du gouvernement, justement à cause de ces problèmes de corruption, de ce matériel qui n'arrive pas jusqu'aux lignes de front. Mais par contre, oui, évidemment que ça fédère, parce que unis dans l'adversité, c'est à peu près ce qu'il leur reste pour l'instant. Donc oui, derrière cette figure présidentielle, on se serre les coudes, mais c'est, comme vous le dites, hein, c'est plutôt parce que on sent que l'avenir va être extrêmement difficile.
Mais est-ce que ça veut dire aussi que, parce que si on pousse le raisonnement de Vladimir Poutine, on l'a entendu clairement, et c'est aussi, à certains égards, le raisonnement d'ailleurs des Américains, à un moment ou à un autre, se débarrasser de Volodymyr Zelensky. Est-ce que dans ces moments-là, on verra une Ukraine faire corps réellement derrière son président? Est-ce qu'on reverra des Ukrainiens place Maïdan, par exemple? Est-ce que c'est ça que ça veut dire aux yeux des Ukrainiens, si on veut, pardon, mais leur faire le coup de la Biélorussie, quoi?
Alors, c'est difficile d'anticiper les événements, mais je pense que les Ukrainiens tiennent à leur indépendance. Ils sont en train de se sacrifier par milliers sur des lignes de front pour leur souveraineté. Donc, je ne les vois pas une seule seconde accepter que la Russie, aidée par les États-Unis, décrète de mettre X ou Y à la place de Zelensky. Je ne les vois pas accepter cela, parce que bah, là, maintenant, ils sont tout simplement en train d'accepter de mourir pour défendre ce principe que un pays doit pouvoir, une population doit pouvoir élire son propre président sans qu'une puissance voisine ait à décréter qu'il faille l'éliminer.
J'ai une dernière question pour vous, Maureen Mercier. Vous l'avez un petit peu évoqué au début de notre conversation. Je me demandais si, parallèlement à cela, c'est-à-dire à l'envie de continuer à combattre, de ne pas tout laisser passer, si l'Ukraine était aussi un pays qui se vidait, littéralement, en fait. Si, au fond, devant cette infinie stabilité, les gens qui ont décidé de rester en se disant ça finira par s'arranger ne sont pas en train de s'interroger en disant c'est pas tant pis, on s'en va, quoi, c'est terminé, on s'en va, on élève les enfants ailleurs, on fait notre vie ailleurs.
Alors, il n'y a pas de statistiques, parce que c'est extrêmement compliqué, évidemment, à évaluer. Mais alors, de ce que moi, je peux bien observer, c'est oui, c'est des gens qui se découragent là maintenant. Mais ils se découragent parce qu'ils comprennent que ça va durer, parce qu'effectivement, ils ont des enfants, parce que tenir 3 ans, pour ceux qui tiennent 3 ans, c'est énorme. Pour ceux qui tiennent déjà depuis 10 ans, parce qu'ils sont dans l'Est, 10 ans, c'est vraiment trop. Et puis, il y a des gens qui tiennent plus économiquement, qui ont puisé dans leurs économies pour tenir ces 3 dernières années. Mais les perspectives économiques, si on comprend que la guerre va durer, c'est aussi très très compliqué. Donc parfois on est tout simplement obligé de quitter le pays, tout simplement parce qu'on ne fuit pas les bombes, mais on n'a plus de quoi vivre. En même temps, je dis ça, mais il ne faut jamais oublier que tous les hommes en âge d'être mobilisés ne peuvent pas quitter le pays. Donc ils sont dans une, je reprends pour certains leurs mots, dans une prison à ciel ouvert, tout simplement.
Maureen Mercier, merci beaucoup pour ces éclairages venus d'Ukraine. Merci vraiment. Je renvoie nos auditeurs aussi de la RTS, la radio suisse, la radio cousine. Ce sont nos amis pour écouter vos carnets d'Ukraine qui sont regroupés en podcast. Merci beaucoup, Maureen.
Merci infiniment.
La suite ce soir, c'est un reportage, c'est le reportage d'un jour dans le monde à la bibliothèque de Johannesburg. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, Kevin Dufresne sous les radars.
En Italie, une charmante station balnéaire toscane envahie par les moucherons.
Le monde à 18h50 et Franck Madon. Salut Franck.
Salut Fabienne, bonsoir à tous. Un journaliste américain sur un groupe de messagerie au plus haut niveau de l'État. On va tâcher de tirer les leçons du Signalgate.
Et puis la tech la première est Stéphane Jourdain. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir à tous, on parle des call centers et vous allez l'entendre, il est de plus en plus difficile de savoir si on parle à une IA ou à un être humain.
Allez, à tout de suite, tout le monde, le tour de la planète commence à peine. Nous faisons une courte escale dans les forêts canadiennes et les forêts japonaises en même temps. C'est vrai que c'est un peu un grand écart. Saya Gray a écrit son album entre pop et folk. Elle est canado-japonaise, figurez-vous. Shell of Man, c'est en playlist sur Inter. You're gonna have-
plus. Simple gossip keeps the young man at ease. I know you're kind, I know the words that you weave. How do I get past the past? I'm so hung up on cobwebs. I lasted this long in a paper house.
Le reportage d'un jour dans le monde, ce soir, est en Afrique du Sud, à la bibliothèque de Johannesburg, bibliothèque municipale. Et pourquoi donc ? Eh bien parce que 5 ans après le Covid, elle vient à peine de rouvrir ses portes. Elle avait fermé en 2020 à cause des restrictions sanitaires. Mais au moment de la rouvrir, la ville s'est rendue compte qu'elle était en très mauvais état, que les normes de sécurité n'étaient plus respectées, les normes d'incendie pas plus. Donc travaux qui ont beaucoup traîné, il a fallu que les associations fassent pression sur la ville. Mais désormais, avec la réouverture de la bibliothèque, le centre-ville, gangréné par les trafics de drogue et par les gangs, retrouve du savoir et de l'éducation. Le reste, c'est Valentin Hugues qui raconte.
Les portes en bois de l'immense bibliothèque vont bientôt ouvrir. Et devant ce grand bâtiment gris, des étudiants s'impatientent. Doumizo a 17 ans, le sourire aux lèvres et l'uniforme de son lycée sur le dos.
Oh yeah, I'm very excited. I've drove past this library so long.
Je suis très enthousiaste. Ça fait maintenant plusieurs années que je passe devant la bibliothèque fermée. C'était un obstacle pour de nombreux étudiants, en particulier pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des livres ou des contenus numériques. La bibliothèque a toujours été une source de savoir public auquel tout le monde avait accès. La réouverture va donc faire du bien à beaucoup de jeunes ici.
Parce que 5 ans de fermeture, c'est long, trop long pour les associations qui ont milité pour sa réouverture rapide. Alors aujourd'hui, elles ont apporté avec elles les pancartes de leurs précédentes manifestations.
On en a plusieurs. Des bibliothèques ouvertes pour des esprits ouverts, l'éducation est un droit de l'homme et les bibliothèques ouvertes favorisent l'alphabétisation.
C'est cette manifestation qui a tout changé. Flaubert est la fondatrice de Johannesburg Héritage. Sur son t-shirt bleu, il est écrit « Les bibliothèques offrent des services essentiels ».
Nous avons donc organisé cette grande manifestation l'année dernière. Et tout d'un coup, nous avons été invités aux réunions avec les parties prenantes. Nous avions accès aux informations sur ce qui était en train d'être fait et sur les dates d'ouverture possibles. Et à chaque réunion, on demandait « Alors, c'est pour quand ?»
Moi, je suis Younous Chamda, de l'organisation Joburg en crise. Nous avons manifesté ensemble. Il y avait aussi de nombreux auteurs qui ont fait don de livres. Et dans les livres, ils avaient adressé une pétition à la ville pour qu'elle ouvre cette bibliothèque. Aujourd'hui, nous allons continuer de poser des questions sur le coût, par exemple, car nous pensons que la transparence est importante.
Et effectivement, une fois à l'intérieur, les associations discutent avec la ville. Elles apprennent que la rénovation a donc coûté 3 millions d'euros. Flaubert, entouré de journalistes, se lance dans une visite des lieux avec le maire de Johannesburg.
On voit tous les tuyaux rouges pour les incendies. En cas de départ de feu, l'eau arrive automatiquement. Ici, au plafond, vous pouvez voir que tous les câbles sont blancs et propres. Ils ont été remplacés.
Younous, lui, se tient un peu à l'écart du groupe.
Je jette mon regard sur ces montagnes de livres et c'est vraiment réconfortant. Si vous regardez les grandes fenêtres ici, avec la lumière qui entre, vous ressentez cette tranquillité, cette sérénité. Il y a maintenant tellement d'opportunités, notamment pour les jeunes.
young people now have a space that they can come to.
Parce que vous avez votre maison, votre lieu de travail, et ensuite il y a un troisième endroit où l'on est en sécurité, où l'on est en paix, et c'est la bibliothèque. Une bibliothèque d'ailleurs que moi-même je fréquentais quand j'étais jeune. Notre collectif est donc très heureux aujourd'hui, car c'est pour tout ça que nous militons.
Les propos de Younous sont rapidement confirmés par cette scène entre Doumizo et son camarade Pilo, qui parcourent les rangées de livres comme si c'était leur première fois.
Aujourd'hui, j'emporte un livre à la maison, sûrement celui-là.
Cette bibliothèque va me permettre d'atteindre mes objectifs dans la vie.
Bien plus qu'une simple inauguration, la réouverture de cette bibliothèque sonne le retour du savoir en plein cœur de Johannesburg, là où les bâtiments voisins sont souvent abandonnés ou contrôlés par les gangs.
Valentin Hugues pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Et nous sommes d'abord en Inde avec un saccage.
Oui, c'était le week-end dernier à Mumbai dans un comedy club. Cadres et verres cassés, chaises jetées, affiches arrachées, l'établissement complètement retourné par une bande de militants d'extrême droite du Shiv Sena, parti politique nationaliste hindou, proche du BJP du Premier ministre Narendra Modi. Tout ça pour ça. Pour une chanson parodique de l'humoriste Kunal Kamra, réputé pour sa satire politique, un genre auquel peu de comiques se prêtent dans le pays, et pour cause. Dans sa chanson, il se moque du vice-ministre en chef de l'État du Maharashtra, qualifié de traître puisqu'il a changé d'allié politique pour renverser le précédent gouvernement. C'était en 2022. 10 personnes ont été arrêtées après le saccage, mais le Shiv Sena justifie cette exaction en affirmant qu'on ne peut insulter personne, suggérant même que Kunal Kamra est en fait payé par des adversaires politiques pour faire ses blagues. Il n'est pas illégal de se moquer de nos dirigeants, répond l'humoriste qui affirme ne pas avoir peur. Le gouvernement nationaliste a carrément ordonné la démolition du Comedy Club. Ça a commencé lundi.
Nous voici en Chine, Kevin, avec de rares révélations.
Et rares parce qu'elles sont faites par plusieurs médias chinois dans un pays où l'information est, on le sait, plus que contrôlée par l'État. Ça se passe à Shenzhou, dans la province du Hunan, c'est dans le sud du pays. La semaine dernière, des journalistes révèlent qu'une fuite de thallium, un métal lourd, inodore et incolore, a pollué un tronçon d'une rivière et que la sécurité de l'eau potable est menacée à Shenzhou, ville de 4,5 millions d'habitants. Et ces articles ont poussé les autorités municipales à admettre finalement dimanche qu'en effet une fuite avait été détectée et qu'un plan d'urgence était mis en place. La Chine est 172e sur 180 au classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières.
Et puis nous voici en Italie, où une petite ville est littéralement envahie.
Envahie par les moucherons. Ça se passe à Orbetello, 15 000 habitants sur la côte toscane, station balnéaire au bord d'une lagune, un petit paradis perturbé donc depuis des mois par la présence de nuées de moucherons, comme dans un film d'Hitchcock, écrit le journal La Stampa, référence aux oiseaux, et effectivement les images sont impressionnantes, des centaines, des milliers d'insectes partout dans la ville. Des habitants témoignent, expliquant qu'ils sont contraints de vivre enfermés chez eux. Il y a 2 semaines, le directeur de la poste locale a même fermé, évoquant une catastrophe naturelle. Une pétition réunissant 20 000 signatures demande l'instauration de l'état d'urgence dans la ville. La mairie ne sait plus quoi faire, organisant tout de même des opérations de désinfestation de la lagune. Et ce qui inquiète Orbetello, c'est que l'été arrive, et normalement avec lui les touristes, et donc de l'activité économique. La ville est à 150 km de Rome, un nouveau signe du réchauffement climatique, hein, puisque l'été dernier, l'eau du lagon a atteint 33 degrés, des milliers de poissons sont alors morts, autant de prédateurs en moins pour les moucherons qui se sont multipliés sans être inquiétés.
Kevin Dufraîche, merci beaucoup. Kevin, vous partez en passant par le Mali avec Ismaël Lo. Tajabone, ça date de 92, c'était la BO du film « Tout sur ma mère » de Pedro Almodovar. Et c'est sur France Inter, bien sûr.
Nita Tajabone Tenyi Tajabone Nita Tajabone Tenyi Tajabone Abdu Ujambar ñari malaika la hawe esikau danu sisero momu munila degam julinga momu munila degam wonga Dano sincero Momu Munila Degam julinga Momu Munila Degam wonga Nita jobon Denita jobon Nita jobon Denita jobon Wale 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 Abdu Jamba Wale Nyari malaika la Wale Chikau lay joge Dano sisero Munila Degam julinga Munila Degam wonga
Tadjabon, signé Ismaël Lo sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h49, c'est Franck Madvon.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Franck, un journaliste invité par erreur dans un groupe de discussion sur des informations ultra sensibles. Signal Gates fait la une de toute la presse américaine cette semaine. Et ce soir, vous nous dites pourquoi cette affaire va laisser des traces dans l'administration Trump.
Signal Gate, du nom de la messagerie au cœur du scandale Signal. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un équivalent de WhatsApp un peu plus sécurisé. Hier, le magazine The Atlantic a publié l'intégralité des messages échangés sur un groupe Signal, réunissant une vingtaine de hauts responsables américains, groupe consacré à des frappes américaines contre les Houthis au Yémen, rebelles soutenus par l'Iran. L'histoire est à peine croyable, Fabienne. Le rédacteur en chef du mensuel, Jeffrey Goldberg, a été invité à rejoindre ce groupe. Lui-même n'en revient pas. Il a cru une blague, un piège, avant de comprendre qu'il réalisait sans le vouloir le rêve de tout journaliste, comme vous et moi, être une petite souris dans une pièce avec les principaux décideurs, le vice-président J.D. Vance, le chef du Pentagone, Pete Hegseth, le conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, ou les patrons du renseignement.
L'administration Trump, donc, est accusée d'avoir commis une faute grave.
Et l'affaire réveille l'opposition. Les élus démocrates s'indignent et demandent des démissions. Leur cible, Pete Hegseth, qui donne tous les détails opérationnels de la frappe contre les Houthis, et Mike Waltz, qui a invité, par erreur, Goldberg dans le groupe. Deux questions pour commencer. Comment un journaliste se retrouve-t-il là? Et comment des responsables américains peuvent-ils discuter d'un sujet si sensible sur une messagerie non sécurisée? S'agissant du journaliste, Waltz a manifestement commis une énorme bourde quant à l'utilisation de Signal. Ça paraît indéfendable. Presque tous les experts militaires estiment que des informations classifiées ont été révélées.
Sauf que l'administration Trump nie tout, toute faute.
Oui, Trump lui-même voit dans cette affaire un simple bug, glitch en anglais. J.D. Vance accuse le magazine d'avoir survendu ses infos. Pete Hegseth estime avoir fait son boulot et assure qu'il n'y avait pas de détails dans ses échanges, juste des plans de guerre foireux. Les élus républicains sont comme toujours alignés derrière Trump et son gouvernement. Mais, sous couvert d'anonymat, des responsables militaires soulignent que des vies de soldats ont pu être mises en danger Voix un peu discordante, le chef de la diplomatie, Marco Rubio, admet que quelqu'un a fait une grosse erreur. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, qui donne tous les horaires de l'opération à la minute près, ne sort pas grandi de l'affaire. Dans le New York Times, le commentateur David French, avocat et ancien soldat, estime qu'il n'y a pas un officier dont la carrière survivrait à une telle faille de sécurité.
Et puis l'affaire a d'autres conséquences.
Elle montre au monde entier que la plus grande puissance militaire est dirigée par des amateurs. Les ennemis des États-Unis se moquent et leurs alliés s'interrogent. Peut-on partager des informations secret défense avec des responsables aussi imprudents? En parlant d'alliés, le Signal Gate confirme ce que l'administration Trump pense de l'Europe. Pour les responsables américains, frapper les Houthis favorise la navigation commerciale en mer Rouge, dont bénéficient les Européens, considérés comme des profiteurs par J.D. Vance et Pete Hegseth dans les échanges. Amateurisme, violation du secret défense, mise en danger de la vie de soldats, atteinte à la réputation des États-Unis, embarras diplomatique, même pour les standards de Donald Trump, ça fait beaucoup.
Franck Madvon, merci beaucoup. Le jeudi, Stéphane Jourdain nous plonge dans le merveilleux monde de l'IA et du numérique, c'est la Tech la première.
France Inter, le 18/20.
Et donc Stéphane, vous nous parlez ce soir d'un secteur percuté de plein fouet par l'intelligence artificielle, les call centers.
Et oui, il y a un an et demi, un Français qui vit à Shanghai nous racontait son quotidien en Chine et notamment ses démarchages téléphoniques très déroutants quand vous vous demandez si c'est une IA ou une vraie personne qui est au bout du fil.
Le timbre de la voix, les façons de parler sont très 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 proches d'une personne réelle. C'est effectivement très perturbant.
Eh bien ça y est, on y est, un an et demi après, c'est arrivé en France, bienvenue dans un monde où il est de plus en plus difficile de savoir à qui vous parlez. La preuve avec ce vrai échange récent entre l'opérateur d'un portail d'annonces immobilières et le vrai directeur d'une agence immobilière un peu perdue.
Bonjour.
Bonjour, je suis Nicolas Immobilier, j'aimerais échanger quelques instants avec le directeur ou la directrice de l'agence. Est-elle disponible ?
Oui, je vous écoute, dites-moi.
Tout d'abord, merci d'utiliser notre portail pour diffuser vos annonces immobilières. Nous organisons actuellement des rendez-vous pour présenter les dernières nouveautés de notre plateforme. Seriez-vous disponible cette semaine ou la suivante pour un rendez-vous ?
Mais pour faire quoi ?
Vous l'avez compris, le téléopérateur est une IA. On a laissé les blancs pour se rendre compte du temps de latence.
Je vous propose un rendez-vous pour découvrir nos nouvelles fonctionnalités. Seriez-vous disponible cette semaine ou la suivante ?
Mais c'est quoi comme fonctionnalité ?
Nous avons des boosters d'annonces qui augmentent la visibilité et les contacts qualifiés.
Et ça coûte combien à peu près ? C'est pas gratuit, ça.
Je comprends que le budget peut être une contrainte. Ce rendez-vous a pour objectif de vous informer sur les options disponibles. Seriez-vous disponible cette semaine ou la suivante ?
La semaine prochaine.
Alors... D'accord, pouvez-vous me communiquer votre nom et prénom ?
L'agent immobilier donne ensuite ses coordonnées et au moment où il croit déceler la supercherie, un événement inattendu surgit dans la conversation.
Merci, monsieur. Je confirme que le numéro est bien le 01 75.
Ouais, c'est ça. Franchement, vous êtes fort. Hein. Intelligence artificielle, tout ça, vous êtes très fort.
Merci beaucoup. Passez une excellente journée.
Salam. Wa alaikum.
Wa alaikum salam. Passez une bonne journée.
Oh ! Vous êtes un humain ou un robot ?
Je suis un assistant virtuel.
Non, franchement, mais chapeau. Franchement, je suis épaté.
Merci beaucoup, c'est très apprécié. Passez une excellente journée.
Au revoir.
C'est dingue, c'est dingue. Alors, moi, je trouve qu'on entend l'intelligence artificielle. Maintenant, vous nous avez habitués à ça, Franck. Stéphane. On l'entend, ça va. Oui, bonjour, Franck. Je suis une IA. En gros, il ne reste plus qu'à régler, en tout cas, la question du temps de latence.
En réalité, cette question est déjà réglée, Fabienne. Le temps de latence, c'est le cheval de bataille de Qt AI, le laboratoire IA français lancé par Xavier Niel. Ce labo travaille sur Moshi, une IA capable de discuter en toute fluidité avec un être humain. Et Ney Zeguidour nous révèle que ça y est, le problème du temps de latence est derrière nous.
Le temps moyen que va mettre Moshi à vous répondre, c'est moins de 200 millisecondes, donc un cinquième de seconde, ce qui est la latence que vous avez dans une discussion avec un être humain. Parfois aussi, Moshi, si l'algorithme a déjà compris où vous voulez en venir avec votre question, il va pouvoir vous interrompre et commencer à vous répondre très vite. Donc en termes de latence, on a atteint le niveau des humains, et ça ne sert à rien d'aller au-delà, parce qu'au-delà, l'interaction deviendrait étrange, si vous voulez.
Donc l'irruption de l'IA, Stéphane, c'est d'ailleurs ce qui explique les difficultés du leader mondial de ce secteur.
Oui, le groupe français Téléperformance, 500 000 employés dans le monde, dont l'action a été divisée par 4 en 3 ans. Cet opérateur historique est concurrencé par des startups dopées à l'IA, notamment le suédois Klarna, qui a annoncé en grande pompe, il y a tout juste un an, que chacun de ses agents IA pouvait faire le travail de 700 téléopérateur.
Et donc, vous avez fait le test vous-même?
Oui, avec l'outil développé par la start-up française Volubile. Voilà le résultat. Oui, allô?
Oui, bonjour. Je suis l'assistant virtuel de la société Volubile. Vous avez demandé à être rappelé?
Oui, tout à fait.
Je voulais savoir si vous aviez des questions ou des informations supplémentaires à partager concernant votre demande de rappel.
Oui, en fait, je voulais savoir comment ça marche votre affaire.
Volubi propose une plateforme d'intelligence artificielle conversationnelle qui permet de créer des agents vocaux autonomes. Ces agents gèrent en fait les appels entrants et sortants avec une interaction fluide et naturelle. Ils peuvent répondre à des questions fréquentes, prendre des rendez-vous et même automatiser des tâches répétitives. Souhaitez-vous en savoir plus sur un aspect particulier de notre service?
Oui, est-ce que les gens savent qu'ils communiquent avec une IA?
Oui, dans la plupart des cas, les clients y sont informés s'ils interagissent avec une IA.
Et en plus, elle sait dire « c'est un truc de dingue ». C'est quoi l'efficacité commerciale quand même de ces agents IA alors?
Alors, on a demandé au directeur de l'entreprise qui utilise l'IA pour démarcher les agents immobiliers, le premier extrait qu'on a mis tout à l'heure. Il ne veut pas être cité, mais ce qu'il nous dit est assez incroyable. Quand l'opérateur est une IA, il décroche un rendez-vous commercial deux fois plus souvent que quand c'est un humain. Or, l'IA coûte selon lui quatre fois moins cher.
Donc c'est l'avenir.
Et oui, qu'on le veuille ou non, Stéphanie Delestre de Volubile nous donne un exemple concret. Voici à quoi va servir l'IA très bientôt.
Vous venez de louer un vélo de type Vélib. Vous arrivez devant la borne et là, la borne est bloquée. Vous allez appeler le service client de ce loueur de vélo et là, vous allez tomber sur un agent IA conversationnel. Vous allez pouvoir lui parler de façon très naturelle, exprimer votre problème. Premier étage. Deuxième étage, l'agent va se connecter aux outils du client pour vous authentifier. Une fois que ça s'est fait, eh bien, troisième étage, elle va résoudre votre problème pour vous réouvrir la borne. Et puis peut-être enfin, elle va aussi procéder au remboursement de votre course. Le point magique, c'est que vous avez joint une machine immédiatement, sans délai d'attente, 24 heures sur 24.
Et tout ceci en 50 langues.
Alors il y a quand même une question, Stéphane, est-ce qu'on a vraiment envie d'un monde où on ne parle plus qu'à des machines?
Et va-t-on devenir fou si on ne sait plus à qui on parle?
Ben
on
oui.
a posé la question à une psychanalyste, Catherine Nakaspol.
La question c'est, est-ce qu'on veut une copie, une imitation, une reproduction, ou est-ce qu'on désire ce qui est vivant, ce qui est excitant, ce qui est savoureux, ce qui est goûteux? Eh bien, on le sait, c'est coûteux de se passer du goûteux. On a le choix entre l'ennui ou le joyeux, le gai savoir, disait Rabelais. Ça, c'est une mise en garde de Freud, de Lacan, de la psychanalyse, de ne pas se laisser aller à rêver d'être soi-même une machine, un robot, sans faille, sans manque et donc sans désir.
C'est coûteux de se passer du goûteux et vivre Rabelais.
Voilà, et à la sienne surtout, à la vôtre aussi. À jeudi prochain, Stéphane Jourdain, merci beaucoup.